Ay, no, sí, enfin, non.
Merci. Bonjour à tous. Donnons une main d'appréciation à ces frères et sœurs qui sont venus nous... Merci beaucoup. Vraiment édifiant et inspirant. Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'être de retour de vacances. On a eu des gens qui me demandent ce que j'ai fait dans mes vacances. Et bien, on est en famille. Notre famille est venue à la maison. Et on a eu la joie d'avoir Katia, notre fille qui est de Fermont, elle est descendue. Elle est restée chez nous une couple de semaines avec ses enfants. Ça allait par batch, là. J'avais Katia et sa famille suite après c'était Luc et ses enfants. Et tout de suite après, ça se chevauchait quand même un peu. J'avais Julie et ses 5 enfants avec Joël. Alors, il y a eu beaucoup d'enfants chez nous. On a eu l'occasion de voir nos 10 petits-enfants. C'était très agréable. Et ce matin, on veut commencer par la prière et demander à Dieu de nous bénir ensemble et dans sa parole. Alors, courbons-nous juste un instant, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce bon temps de louange et d'adoration. Et comme les chants le disent, nous voulons te rendre honneur. Nous voulons t'élever, te bénir dans nos cœurs. Et Seigneur, tu es ce qu'il y a de plus précieux, plus cher. Tu es magnifique, Seigneur. Où irions-nous, comme Pierre le disait si bien, où irions-nous? Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, tes grandes bontés. Merci pour ton salut, ta grâce, ta sainteté, pour tout ce que tu es, pour tous tes attributs, ton omniscience, ton omniprésence, ton omnipotence. Tu es partout où tu es, tu connais tout, tu es le Tout-Puissant. Et Seigneur, tu es notre Dieu. Et surtout, tu es vivant. Aide-nous, Seigneur. Tu n'es pas comme une idole, muette, immobile. Non, Seigneur, tu es vivant. Et nous voulons te louer ce matin. Parle à nos cœurs. On te prie ensemble, en famille, pour ceux et celles qui vivent des temps difficiles, Seigneur. Il y en a quelques-uns ici à l'Assemblée. Vivent des crises à la maison ou au travail. Seigneur, on te prie pour eux. Que tu puisses les réconforter, les fortifier, les bénir. On prie pour notre assemblée, Seigneur, puisse grandir en toi. Parle à nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, j'espère que moi aussi, de notre côté, j'espère que vous avez passé un bel été, des belles vacances. On vous le souhaite, sinon, bien, peut-être que vos vacances s'en viennent dans quelques jours. On me dit que plusieurs, maintenant, prennent leurs vacances au mois d'août, de plus en plus au mois d'août, et certains, je connais même des gens qui prennent des vacances en septembre, c'est encore plus calme. Donc, on vous souhaite vraiment une bonne fin d'été. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai déjà entendu parler, le missionnaire Alan Gardner. Imaginez cet homme, on parle du 19e siècle, en 1851, il est parti en mission. Alors, vous pouvez imaginer ce que ça pouvait ressembler en 1850-quelques, alors qu'on n'a pas toute la technologie d'aujourd'hui. C'est déjà un défi, même aujourd'hui, en 2011, de partir en mission. Alors, imaginez, vous reculez 150, 160 ans derrière, comment c'était difficile d'aller en mission dans ces années-là. Et sa société missionnaire l'a envoyé pour aller dans le sud, en Amérique du Sud, pour apporter l'Évangile dans des endroits où il n'y avait pas d'Évangile. Donc, il partait tout seul, et c'était comme ça à l'époque, c'était très difficile. On allait défricher un territoire avec l'Évangile, apporter le message de l'Évangile des endroits où on n'avait jamais entendu parler de Jésus-Christ. Donc, le voilà envoyé, prend le bateau, et il ne s'est jamais rendu. Il s'est préparé, tout ça, il a prié pour ça, et il part, et il s'en va en bateau, et le bateau a coulé. Et tant bien que mal, il a réussi à nager, à survivre et tout ça. Il s'est rendu sur une île déserte où il est mort de faim. Vous pouvez imaginer à cette époque, en 1850, lorsque tu allais en mission, un peu comme aujourd'hui, mais c'était encore pire à cette époque, lorsque tu partais en mission, tu abandonnais tout. Tu abandonnais ta carrière, les gens que tu aimais, ta famille. Tu abandonnais toute la sécurité, le confort, et tu partais comme ça dans la brousse pour amener l'Évangile. Alors, c'était un prix cher à payer, et voilà qu'il était prêt à le faire, prêt à servir Dieu à temps plein, aller là-bas, sur cette île, sur ce territoire d'Amérique du Sud pour se retrouver finalement seul sur une île déserte. On ne l'a pas retrouvé à temps pour qu'il survive. Il est mort de faim et de soif. Maintenant, plus tard, on a découvert son corps sur cette île. Et à côté de lui, il y avait une Bible et un journal personnel. Alors, il avait son journal, il gardait un journal, et puis il commentait les versets, les passages qu'il lisait. Et puis, ils ont découvert dans son journal les dernières choses qu'il a écrites, les derniers commentaires, donc à son pire. En d'autres mots, alors qu'il souffrait de faim, vous savez ce que ça peut être, on déshydrate. J'ai pas vraiment connu ça, mourir de faim, ce que ça peut être, mais on me dit que tu as des crampes au ventre, tu déshydrates, donc il ne pouvait pas boire, ne pouvait pas manger. Donc, à son pire, alors qu'il était mourant, il a écrit ce verset dans les dernières paroles qu'il a écrites dans son journal, et j'aimerais vous le lire. D'ailleurs, on le voit ici, dans l'acétate, le psaume 34:10, qui dit ceci, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. » Et c'est ça qu'il vivait, c'est ça qu'il éprouvait. Il était en train de mourir de faim et de soif. Et il dit, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent en l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. » C'est pas n'importe qui dit ça, là. C'est lui qui est en train de mourir de faim et de soif. Et il cite ce verset, « Ceux qui cherchent en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Et voici le commentaire qu'il a écrit tout de suite après. Il a dit, « Je suis émerveillé par la bonté de Dieu. » Voici un homme mourant qui souffre, qui a des douleurs atroces, qui dit, « Je suis émerveillé par la bonté de Dieu. » Chers amis, cette personne-là, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'il n'était pas en colère? Bien des gens seraient en colère. On peut se poser la question, comment ça se fait qu'il n'était pas en colère? Voilà cet homme qui souffre, malheureux, dans un sens, ayant tout laissé en arrière de lui, sa famille, les gens qu'il aimait, tout ça, et pourtant il garde une joie dans son cœur, et il loue Dieu parce que Dieu est tellement bon. Quel est son secret? Comment c'est possible de connaître un jour de malheur comme ça, tout en restant confiant et le cœur en fête? On a heureusement la réponse dans le psaume 27, puisque David a vécu de tels jours de malheur. Laissez-moi vous lire le psaume 27. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais vous encourager à tourner dans la Bible. Et on va lire ce passage, un magnifique passage, chapitre 27 du livre des psaumes. Psaume 27. C'est un psaume de David, et voici ce qu'il dit. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle et au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi. » Et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Eh bien, il est bien clair à travers cette lecture du psaume 27 que le vœu de David, le vœu le plus cher de David, était de voir la beauté de Dieu, voir la magnificence de Dieu. C'est ce qu'il voulait. Il dit d'ailleurs au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu pour contempler la magnificence. » La façon que le Darby le rend, c'est pour voir la beauté de Dieu. Voir la beauté de Dieu. Voici le vœu le plus cher de David, de voir la beauté de Dieu. Et mes chers amis, c'est ça qu'on a besoin, vous et moi. On a besoin de se préparer pour le jour du malheur, parce que lorsqu'on regarde ceci, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde le contexte de ce psaume, ce que David souhaite le plus cher, c'est de voir la beauté de Dieu. Mais quand on regarde le contexte, c'est un jour de malheur pour lui. Et on s'aperçoit que nous avons tous besoin de voir la bonté de Dieu, de voir la beauté de Dieu. Maintenant, lorsque nous lisons les versets 4 et les versets 5, nous voyons une phrase qui va revenir, c'est au niveau de la prière, c'est cette idée de contempler et l'émerveillement au temple. Le mot temple va revenir plusieurs fois. Et quand on regarde le contexte, David est dans une situation très difficile, un jour de malheur pour lui. Il parle lui-même qu'il est entouré, on le voit au verset 2, verset 3, on voit que des méchants l'entourent, l'encerclent, et la guerre se prépare, et David était un roi, alors étant un roi, ça lui est arrivé plusieurs fois que des ennemis en voulaient sa vie, on pense même à Saül, on pense même à son fils. Et il était en guerre constamment, c'était normal pour un roi à cette époque. Alors pour nous autres, c'est difficile de s'identifier à ça parce que, je sais pas vous et moi, mais moi je suis jamais allé en guerre. Il y a des gens ici qui sont allés et ils sont marqués de ça. C'est une expérience incroyable. Mais on a de la difficulté à s'identifier à ça. Mais regardez le verset 10. Le verset 10, ça, on peut peut-être s'identifier un peu plus à ça. Verset 10 qui dit « Car mon père, maintenant on peut le traduire plutôt « quand ou si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel, lui, va me recueillir. » Voyez-vous ce que David est en train de faire? Dans le fond, il est en train d'aller dans les deux extrêmes des jours de malheur, les deux opposés, à deux extrêmes. D'un côté, vous allez tout à fait à l'extrême droite, c'est les méchants, c'est les persécuteurs, les ennemis qui veulent le tuer. Alors, c'est les pires, c'est des gens qui sont méchants, qui en veulent, qui courent après, qui veulent du mal. Et à l'autre bout, tout à fait à l'autre côté, les gens qui devraient t'aimer le plus, tes parents, voilà des parents d'une situation où tes parents t'abandonnent. Alors, c'est deux extrêmes, deux genres de douleurs différentes, mais par ces deux extrêmes, ce que David est en train de faire, il est en train d'englober toute espèce de souffrance inimaginable qu'on peut éprouver, qu'on peut connaître, qu'on peut se rencontrer. Voyez-vous? En d'autres mots, tous les malheurs auxquels on peut être confronté, quelles que soient les souffrances et les épreuves auxquelles on peut être exposé, ça s'inscrit, ça entre dans ce texte-là, dans ce passage, dans cette parole de David. Alors, chaque fois que nous vivons, et peut-être que certains, je le sais que certains parmi vous, vous êtes en train de vivre des jours de malheur, que ce soit la santé, que ce soit le cancer, on pourrait appeler ça que vous êtes encerclé d'ennemis comme David, lorsqu'on parle de la maladie, le cancer et tout ça, qui veulent nous arracher la vie. On pense que ce soit Alan Gardner qui était sur l'île. Pour lui, ses ennemis, c'était la faim, la soif. Quels que soient les malheurs auxquels on peut être confronté, ce passage englobe toutes les souffrances inimaginables. Des douleurs causées par des pires, comme de la douleur causée même par ta famille, les gens qui t'aiment. Nous avons les deux bouts. Tout est là. Maintenant, il faut préciser qu'en lisant ce psaume, ce qu'on remarque, c'est que ce psaume ne fuit pas la réalité. Parce que parfois, qu'on soit chrétien ou pas, il y a des jours difficiles. On va arriver avec des jours de malheur. C'est une réalité. Et le psaume ne fait pas semblant. Le psaume ne se cache pas. Elle fait état de la réalité. David était bel et bien entouré de malheur, d'ennemis qui voulaient le tuer. Et ça arrive. Les enfants de Dieu peuvent vivre parfois des malheurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film Soul Surf. Est-ce que quelqu'un ici, levez la main. Ceux qui ont vu, bien haut, je vois ça. Là. Ah, vous n'êtes pas assez nombreux d'avoir vu ce film-là. Moi, c'était bon? Hein? Super. Bon, moi, je vous encourage à voir ce film-là, Soul Surfer. Alors, c'est l'histoire, évidemment, d'une jeune fille qui aimait beaucoup le surf. Une fille qui, elle gagnait des prix, son rêve, elle reste encore à Hawaï. Et elle restait à Hawaï depuis son jeune, d'ailleurs les parents et tout ça, c'est toute une famille qui aime beaucoup le surf. Et puis vous pouvez imaginer à Hawaï faire du surf, c'est magnifique. Et elle aimait tellement faire du surf, elle voulait faire ça toute sa vie, elle voulait avoir une carrière, devenir professionnelle là-dedans, elle a fait des compétitions. Même jeune, à l'adolescence, elle a gagné les premiers prix, catégorie adolescence, concours de surf, elle s'enlignait pour être professionnelle, tout ça. Alors un jour, cette date fatidique est arrivée, au mois d'octobre 2003, où un requin tigre, la longueur de 4 mètres, lui a arraché le bras gauche. Alors, vous pouvez imaginer, elle a perdu plus de 60% de son sang, elle a passé à un cheveu de perdre la vie. Et là, son rêve, tous ses rêves sont tombés, c'est devenu cauchemar, évidemment, ça l'a bousculé. Et c'est l'histoire, c'est la vie, c'est une histoire inspirée d'histoire vraie. La vie de Bethany Hamilton, qui est une chrétienne qui aimait le Seigneur, qui met sa foi dans le Seigneur, mais voilà qu'avec toute cette crise qui lui arrive dans sa vie, alors toutes ses valeurs sont chambardées, ses convictions, sa foi, comment ça que Dieu a permis ça. Et là, elle passe par une gamme d'émotions, allant de la colère, de la tristesse, de chagrin, tout ça, c'est le désespoir total. Elle essaie, après un mois, tant que bien que mal, de reprendre une compétition. Évidemment, ça ne fonctionne pas, elle n'arrête pas de tomber, et juste avec un bras. Et là, elle est découragée. Elle s'en va rencontrer une missionnaire qui est jouée par la chanteuse country qui va venir à Ottawa, moi aussi, je pense, Underwood. Carrie Underwood, vous la connaissez? Alors... qui est une chrétienne, et elle est jouée par cette missionnaire, elle joue cette missionnaire-là, ce rôle-là, elle s'en va le voir, et il se prépare pour aller en mission, donc elle décide d'aller en mission, avec un bras en moins, sur une terre missionnaire, faire du bien aux gens, puis là, elle voit, elle découvre qu'elle peut encourager les gens, et tout ça, et qu'il y a des gens qui souffrent aussi, qui ont besoin d'encouragement, et tout ça, et là, Dieu est en train de travailler son cœur, si bien que quand elle revient calme. Et en revenant à la maison, elle découvre qu'une tonne de lettres est rentrée des fans à travers le monde qui ont été encouragés, des handicapés qui ont été encouragés par son témoignage d'avoir voulu essayer quand même faire la compétition juste avec un bras. Et ça, ça la motive, ça l'inspire de commencer à faire la compétition à nouveau. Et c'est magnifique. Alors, je voulais vous montrer des photos ici. Regardez ça, un bras en moins. Et vous pouvez vous imaginer là des vagues de 10 mètres. Alors, tout à fait, c'est haut, comme quelques étages de haut. Et puis, elle reprend la compétition, puis c'est vraiment bien. Et Dieu se sert d'elle, et elle a compris l'appel que Dieu lui a donné, c'est-à-dire le servir, rendre témoignage à travers le monde de sa foi en Jésus-Christ. Et le mois de juin dernier, elle a fait encadrer une entrevue au quotidien Le Parisien. Elle commence à apprendre le français. Les gars, Alex, on l'a fait venir. Elle est en train d'apprendre le français, puis son objectif, c'est d'ici 4 ans, c'est de parler couramment le français. Puis, elle a déjà commencé à apprendre, et puis elle a donné une entrevue à Paris. Et puis, elle dit qu'elle donne toute la gloire à Jésus-Christ d'avoir sauvé. Puis, elle n'arrête pas de parler de Jésus-Christ. D'ailleurs, le journaliste parisien a dit ça dans son article. Elle ne cesse de parler de Jésus-Christ. Et elle a fait plusieurs entrevues à travers le monde, et elle parle de sa foi de Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est une réalité que des fois, il y a des malheurs qui vont nous arriver? C'est une réalité de la vie, ça? On va connaître des malheurs, et justement, Bethany Hamilton est un exemple de ça, une jeune adolescente qui est vieillie, qui est rendue à 21 ans. Et elle écrivait sur son blog cette semaine, elle a un blog, elle est sur Facebook, tout ça, je suis allé voir ça, puis elle dégage tellement d'espoir. Il y a quelque chose, malgré le malheur. Il y a quelque chose, là. Et on a besoin d'apprendre ça. Oui, le psaume ne cache pas les problèmes auxquels on peut faire face, non, c'est une réalité, le malheur peut nous frapper. Je ne sais pas quel était le malheur de David, ce qu'il vivait, mais certainement il parle d'ennemis, il parle de guerre et tout ça, et probablement que c'est une scène où il est pourchassé. Mais ce que l'on apprend à travers cette expérience-là et le malheur de David, et je pense que c'est ça qui est bien important dans le passage, ce que l'on apprend, c'est que contempler la beauté de Dieu permet à David, il emploie cette expression-là, « Dieu me garde la tête haute ». Façon de parler de la joie, la confiance, et malgré que je suis encerclé, et c'est évident que les ennemis resserrent de plus en plus, s'approchent de lui de plus en plus, mais malgré que l'ennemi est là, il garde la tête haute. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il reste confiant, et c'est la beauté de Dieu qui lui permet de garder la tête haute. En contemplant, en voir la beauté de Dieu lui permet de rester solide, confiant et dans la joie. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin, comme enfants de Dieu, de découvrir, de regarder, de voir la beauté de Dieu. On va voir ce que c'est tantôt. Psaume 27, verset 8, David précise, il dit « Je cherche la face de l'Éternel ». Dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est que je cherche la présence de Dieu. Voyez-vous, dans l'original, en hébreu, ce mot-là, c'est abstrait, ça. Je suis dans la présence de quelqu'un. Le mot présence, c'était pas le mot qu'on employait, on savait pas de ça. Il n'y a pas de mot vraiment pour ça. Alors, le terme que l'on employait, c'était le mot face. On disait, je suis en face de. Alors, mais ce que ça voulait dire, c'est d'être en présence de. Alors, David, ce qu'il souhaite, c'est la présence, c'est d'éprouver, d'expérimenter la présence de Dieu. Sentir Dieu présent. Près de lui. C'est ça qu'il est en train de dire ici. D'ailleurs, le mot se trouve ailleurs, pas toujours pour des gens. Le mot est panayin, et c'est un mot qu'on a employé même dans Ézéchiel 2 pour un livre que tu regardes un manuscrit, tu regardes recto verso. Alors, le recto, la face ici, là, c'est le mot que David emploie. Ça peut être employé aussi des gens, tu regardes en face. Alors, c'est l'idée. C'est ça qu'on parle de présence, mais ce que David est en train de dire, c'est « je veux être dans la présence de Dieu ». C'est ça, voir la beauté de Dieu, c'est ça qui me rend la tête, qui garde ma tête haute. C'est de faire l'expérience de la présence de Dieu. Maintenant, Ésaïe a fait l'expérience de la présence de Dieu. Mais il y a différentes facettes de la présence de Dieu. Par exemple, Ésaïe a fait l'expérience, a connu l'expérience de la présence de Dieu, mais l'accent qui était mis, c'était sur la sainteté de Dieu. Vous vous souvenez, Ésaïe 6, cette révélation-là. Alors, lui, la présence de Dieu, pour Ésaïe, c'était sa sainteté qui ressortait. Pour Ézéchiel, c'était la gloire de Dieu. La présence de Dieu était égale à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas ce que David recherche ici. C'est la présence agréable et satisfaisante. C'est la beauté qui fait du bien. Et c'est le mot qui... C'est ça qui sert ici. C'est ça qu'il recherche, c'est son vœu. C'est cette facette-là. Et le mot que David utilise, qu'on utilise par beauté, parle d'avoir une perception agréable de Dieu. Tu sais, l'idée d'avoir ce sens-là, de la présence de quelqu'un, tu marches sur le trottoir, puis tu sens que quelqu'un te suit en arrière, cette perception-là d'avoir la présence de quelqu'un en arrière, ça c'est utile. Premièrement, avoir la perception d'une présence, c'est utile. Si c'est un ennemi, dans le cas tu marches sur le trottoir, quand il fait tard, puis c'est dangereux, bien ça, c'est très utile parce que tu peux te protéger, tu cours, etc. Si c'est un ami, c'est utile aussi parce que tu peux te retourner, le saluer, etc. Donc, qui parle présence, parle dans un sens utilité, d'accord? Mais ici, avec David, ça va plus loin. Parce que quand tu es en présence de quelque chose de beau, ça, c'est agréable, n'est-ce pas? Quand tu regardes quelque chose de beau, tu t'en vas... On a fait de la chaloupe sur la rivière de l'Outaouais, j'ai découvert des spots incroyables. Il y a des plages ici, sur Upper Duck Island, Lower Duck Island, c'est tout ça, c'est juste à côté ici. Là. Kettle, l'île Kettle. Alors, je suis allé là en chaloupe avec mes petits-enfants, puis avec une trip en arrière, puis on est allé là, puis on est arrêté sur une plage. Tu penserais dans le sud. Une plage, là, c'est du sable. Il y a pas de roche, rien, c'est du sable. Alors, c'est sûr que moi, si m'arrivait des fois d'être dans le bateau et regarder ça, Je dis, gloire à Dieu! Alors, la nature, dans la beauté, c'est agréable à voir, n'est-ce pas? C'est une belle sensation, une satisfaction dans le cœur de voir la beauté. Et c'est dans ce sens-là que David se sert de cette beauté, de la beauté dont il parle. Alors, ce qu'il est en train de nous dire, les implications de ça, c'est qu'à mesure que tu découvres et que tu fais l'expérience de connaître Dieu, il y a quelque chose d'agréable qui se passe dans ton cœur. Dieu est beau, Dieu est agréable. Connaître Dieu, c'est faire l'expérience de quelque chose qui est satisfaisant et agréable, qui est un plaisir. Maintenant, si tu ne fais pas cette expérience-là, si tu, pour toi, Dieu n'est pas beau ou agréable, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le problème est avec Dieu? Non, ça veut dire que tu ne le connais pas. Ça veut dire que tu n'as pas fait l'expérience de sa valeur, de sa beauté. C'est comme moi quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune chez nous, on avait une copie. Mon père aimait beaucoup la Mona Lisa. Vous connaissez ça, cette belle œuvre, cette toile, ce chef-d'œuvre mondial, une réputation mondiale de Léonard da Vinci, la Joconde. Elle est au musée du Louvre à Paris. On a eu l'occasion de le voir il y a 2 ans à Paris, toute protégée avec la vitre, tout ça. Mon père avait une copie. La grandeur, exactement comme l'original, une copie de la Joconde chez nous, la Mona Lisa. Chaque matin, lorsque je me levais et que j'allais dans la cuisine, chaque fois que j'allais dans la cuisine, le dîner, le déjeuner, tout ça, je sortais de ma chambre, je marchais dans le corridor, j'avais 14 pieds à marcher, puis j'avais la Joconde juste en face de moi. Moi là, je me suis, pendant 18 ans, j'ai marché en face de la Joconde, la Mona Lisa. Maintenant, quand j'étais jeune, j'avais aucune espèce d'idée c'était qui. Je dis, franchement, c'est donc bien vieux, cette affaire-là. Regarde la femme, je dis, là, elle est pas moderne, hein? Là, je dis, il s'est habillé, il a habillé, tout ça, je vois pas ça aujourd'hui. Et imagine-toi, non, pendant 18 ans, moi, je marchais là, en avant, sans réaliser que devant moi se trouvait le tableau le plus estimé dans l'art dans le monde. Incroyable, hein? Moi, je marchais ça tous les matins. Je marchais à côté, là, je m'accrochais quasiment dedans, parce que quand tu tournais, c'était à côté de moi, j'avais la toile, le mur, là, je pense m'avoir accroché dessus une couple de fois. Puis je suis rentré dans la cuisine. Il n'y avait rien là. C'était quoi le problème? Quand je suis allé à Louvre, il y a 2 ans, puis je suis allé à Paris, puis, vous savez, il y a un paquet de toiles qui valent des millions de dollars au musée du Louvre. C'est quoi l'événement que tout le monde court? Ils sont tous là, puis ça court. Ils veulent tous aller voir. Ils se dépêchent. Il y a même des gens qui trichent pour passer plus vite, ils s'en vont. Ils s'en vont où, vous pensez? Quel est l'apogée de la visite du musée du Louvre, la Mona Lisa? C'est that's it, my friend. Ça, c'est ton expérience à ton apogée, l'apogée de l'expérience, le summum de ce que tu peux vivre comme expérience quand tu arrives face à face avec la Mona Lisa. Il y a des gens qui sont là. Je pense que tu n'as même pas le droit de prendre des photos, hein. Je pense qu'ils ont. On n'a pas le droit à cause de la lumière. Puis ça, c'est protégé. Il y a une vitre spéciale, tout ça. Tu arrives là, puis tu restes tranquille, là. Imagine-toi, non, moi j'ai été élevé avec ça d'enfant, puis je ne serais pas. C'est comme les deux jeunes qui se sont retrouvés devant la Mona Lisa, puis ils ont commencé à critiquer, puis ils ont dit, « Oh, moi je trouve que, moi, il y a des erreurs. Non, puis ils ont commencé à critiquer. Là, il y a un gars qui a passé à côté, puis il dit, « Écoute, tu ne réalises pas, là. Tu ne réalises pas. » La Mona Lisa, hein, ne peut plus faire l'objet de critiques. Elle a déjà été évaluée, et elle a une valeur inestimable. Comprenez-vous? Donc, elle ne peut plus faire l'objet de critiques ou d'évaluations. Elle a déjà été classée comme étant un chef-d'œuvre national et mondial. Donc, le problème est où avec ces deux jeunes? Avec la Mona Lisa? Est-ce que c'est la Mona Lisa le problème? Non, c'est que ces deux jeunes ne connaissaient rien de la peinture. Comme moi, quand j'étais jeune, je me prenais dans le couloir et je disais, c'est où le problème? La Mona Lisa? Non, c'est moi le problème. Alors, voici ce que j'aimerais vous dire. Si pour vous, Dieu n'est pas beau, si pour vous, Dieu n'est pas excellent, magnifique et agréable, si tu ne fais pas l'expérience d'un Dieu qui compte ton cœur, c'est parce que tu ne connais pas. Et moi, j'aimerais t'inviter à le découvrir. Je ne suis pas là pour te lancer des roches, je suis là pour t'inviter à le goûter, à l'essayer, à voir, à faire un pas en avant de foi, timide peut-être, fais un pas en avant, découvre la beauté de Dieu. Tu ne seras pas déçu. D'accord? Dites-le à tout le monde. Allez dire ça à tout le monde cette semaine. Connais-tu la beauté de Dieu? Gênez-vous pas. Allez-y. Parce que Dieu est beau. Et David devrait dire, voir la beauté de Dieu, faire l'expérience de la présence de Dieu, me garde la tête haute dans les jours de malheur. L'as-tu vécu? J'espère que oui. Maintenant, quand on parle de beauté, dans les Écritures, il y a plusieurs mots pour le mot beauté. C'est pas juste un mot, il y a quelques mots. Et j'aimerais vous lister trois mots. Premièrement, la beauté, ça va parler... Oh, ben oui, regardez. Ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui la connaissent pas, c'est elle. Mona Lisa. La beauté. La beauté, ça parle de quoi? Premièrement, ça parle de l'excellence. Quand on parle de beauté, quand je parle de quelque chose qui est excellent, là, quand tu parles de la beauté, quelque chose qui est beau, c'est parce que c'est excellent. Écoute, t'écoutes la musique, par exemple, et tu dis, que c'est beau. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire, c'est excellent. Moi, je suis allé, il y a quelques temps, au magasin Archambault, puis je voulais avoir la guitare. J'aime beaucoup la guitare. J'aime énormément la guitare. Quand j'étais jeune, j'ai un petit peu pris l'écho. Je dis pas parce que les gens veulent que je joue des fois, puis je veux pas jouer, je suis gêné. Fait que, mais... Je jouais à l'époque quand j'étais jeune. J'ai bien vu laisser Alex. Alex, c'est un pro, c'est super. Mais j'aime beaucoup la guitare. Cet amour-là pour la guitare est resté. Alors moi, je suis allé voir l'Archambault. Je dis, écoute, je me cherche un CD de guitare. Mais la guitare, un bon joueur de guitare. Je lui ai juste donné une idée. Il dit, oui, quel style que t'as? Ah, c'est un Jesse Cook. Jesse Cook, c'est excellent. Ah, je dis, ah, j'ai bien mieux que ça. Ah oui? Ah oui. Paco di Lucia. Paco di Lucia? Écoute, assis-toi là, je vais te donner les écouteurs, là, puis tu vas te écouter ça. Là. Hey, je tombe en amour avec Paco de Lucia. Hey, j'aime, c'est tellement bon que je l'ai mis sur mon site Facebook, mon Facebook, et tous mes amis de Facebook, ça c'est un terme en passant, si vous ne connaissez pas c'est Facebook, vous êtes tous mes amis en réalité, là, mais c'est Facebook c'est un terme, tu deviens mon ami. En tout cas, ça serait compliqué à expliquer. Mais ce que ça veut dire, c'est que tous mes amis de Facebook, là, vous comprenez ce que je veux dire. Allez voir ça, là, j'ai mis une pièce, c'est son chef-d'œuvre, Méditerranée, ça s'appelle. C'est magnifique. Faites Paco di Lucia sur YouTube, vous allez le voir. Si vous voyez le mot, la pièce Méditerranée. Là. Elle a même joué au Festival du Jazz cette année-ci, mais moi, la pièce que j'ai mis là date de très, très, très loin. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on dit « Ah, c'est tellement beau ». T'écoutes la musique, là, t'es en train de dire « C'est tellement beau ». Qu'est-ce que t'es en train de dire? C'est excellent. C'est un virtuose. D'accord? La beauté parle d'excellence. La beauté parle aussi de quelque chose qui est désirable. Mais rappelle-toi d'une chose. Rappelle-toi une fois, là, quand tu as vu quelque chose de tellement beau, tu avais de la misère à te défaire. Là, t'es figé là, puis t'arrêtes pas de regarder. Hein? Tu sais, quand tu as vu ta femme pour la première fois, là? OK. Même pas te dire, Amy, aide-moi, elle dit amen! Même pas un gars qui a dit amen! Hey. Ouais! Oh boy, on fait dur, les gars. Bien, je suis timide, je suis réservé. Oui, OK. La beauté, c'est l'excellence, c'est désirant, quelque chose d'attirant. Et troisièmement, c'est quelque chose qui te donne de la satisfaction. Et c'est le mot que David emploie ici. C'est le mot que David emploie au niveau de quelque chose qui est agréable, qui est satisfaisant, qui satisfait le cœur, qui est agréable au cœur. C'est le mot qui va... Puis tu sais qu'est-ce qui arrive, hein, quand, moi, je ne sais pas si tu fais ça, mais il y a plusieurs personnes que je connais, quand ils ont travaillé très fort dans une journée, puis sont fatigués, ils rentrent à la maison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'asseoir, ils vont écouter de la musique. Parce que ça te calme. Ça calme. Quelque chose de beau est agréable et ça a un effet de calme, ça te repose. Vrai? Je connais bien des gens qui font ça. D'ailleurs, David le souligne ailleurs, il dit dans Psaume 16, 11, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » D'ailleurs, en hébreu, David va employer, et ça arrive souvent, c'est une façon d'écrire en hébreu à l'époque, on répétait des choses deux fois, trois fois pour montrer l'intensité de l'émotion qu'on pouvait vivre et ou la réalité, cette conviction qu'on avait. Et David va employer le mot joie deux fois. Il va dire, bon sang, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie. Là. Il y a de la joie dans ta présence. Il y a de la joie et de la joie dans ta présence. C'est ça qu'il est en train de dire. Il met l'intensité là dans le psaume. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Augustin l'a bien dit. Voici ce qu'il a dit. Il dit, quand tu regardes la mer, quand tu regardes quelque chose de beau dans le fond, quand tu regardes la mer, un beau visage ou de la belle musique, qu'est-ce que tu recherches en fond? Ça montre que tu es en train de rechercher la beauté te calme. tu recherches, et c'est vrai, hein, quand tu es agité, tout ça, tu vas regarder quelque chose de beau, et il y a cet aspect-là. Et Augustin l'a soulevé. Mais Augustin va plus loin en disant ceci. Ce que tu recherches au fond, sans peut-être le savoir, c'est quelque chose que seulement Dieu peut te donner. Ce calme-là, qui va même te calmer jusque dans ton cœur et dans ton âme. Ce que tu recherches dans le paysage, ces belles choses-là que tu regardes, et elles sont belles. Les belles choses. Dieu a fait des choses magnifiques dans la création, mais ce que tu recherches au fond derrière tout ça, c'est ce côté agréable que seulement Dieu peut apporter dans ton cœur. Il n'y a qu'une sorte de beauté, dit Augustin, qui va vraiment vous satisfaire, qui va satisfaire ce que votre âme recherche vraiment, et c'est la beauté de Dieu. Ce que ça signifie, c'est que si nous voyons la beauté de Dieu, même si on est entouré d'ennemis, on peut garder la tête haute, on peut rester calme et confiant. Dieu est excellent, désirable, satisfaisant, agréable. Comment arriver là? Bien, David le répond, il dit plusieurs fois, bon sang, il dit, il faut aller au temple. Il va dire plusieurs fois, il va dire verset 4, encore 4, verset 5, 5, 6, il dit dans son temple, dans la maison de Dieu, dans son tabernacle, qui est dans l'ancienne forme du temple, dans sa tente, il dit à plusieurs fois, il faut aller au temple. C'est là qu'elle se trouve, la beauté de Dieu. C'est là que tu vas voir à son maximum la beauté de Dieu. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi je regarde les océans, je regarde la nature, je regarde les montagnes, je regarde le parc de l'Outaouais, je regarde ça, puis, ça me fait tellement penser comment Dieu est beau. Dans un sens, c'est vrai, mais dans un sens, ça l'est pas. Dans le sens que tu n'arriveras jamais à voir le spectacle de la beauté de Dieu que dans la maison de Dieu. C'est vraiment là que tu vas voir à son maximum, à son pic. La nature et tout ça n'est qu'un échantillon de la beauté que l'on peut voir de Dieu. Maintenant, pourquoi? Eh bien, bien simple, qu'est-ce qui se passe au temple? Qu'est-ce qu'on voit au temple? Au temple, ce que tu vas avoir, c'est qu'une fois par année, tu vas avoir le souverain sacrificateur qui va rentrer de lieu très saint pour offrir des sacrifices à l'Arche de l'Alliance, à Mercy Seat, une place de miséricorde où Dieu va pardonner tes péchés. Vois-tu la beauté de Dieu qui commence à transparaître, à se traduire, ici, à s'exprimer? La beauté de Dieu s'exprime à son summum par son pardon de nos péchés. Maintenant, dans l'Ancien Testament, c'était la croix. Dans l'Ancien Testament, c'était par l'Arche de l'Alliance, c'était par des sacrifices. Mais quand tu arrives dans le Nouveau Testament, c'est la croix. C'est Jésus-Christ qui s'offre en sacrifice. Et est-ce que ce n'est pas intéressant de voir que, pourtant, dans Ésaïe, lorsqu'on prophétise la venue de Jésus-Christ, ce qu'on nous dit, c'est que dans le fond, il n'y avait rien d'attirant. Il n'était pas frappant, il n'était pas beau, il n'attirait pas nos regards. Même au contraire, ça dit même que le Messie qui va venir, le serviteur qui va venir offrir sa vie en sacrifice pour pardonner nos péchés, prendre sur lui nos fautes et nos péchés, en fait, sera même repoussant. Il va tellement être repoussant, et on sait ce que ça veut dire, parce qu'il a été fouetté, défiguré, on a craché sur lui, on a mis une couronne d'épines, on a labouré son dos par les fouets, et on l'a crucifié. Alors, on sait ce que ça veut dire. Les rabbins qui interprètent Ésaïe 53 vont jusqu'au point de dire que le Messie sera considéré comme un lépreux. Tellement qu'il sera repoussant. Maintenant, moi, je comprends pas, parce que pourtant, Jésus dans le ciel était ce qu'il y avait de plus beau. Avant de descendre ici, ce qu'il y avait de plus beau, de plus spectaculaire au ciel, c'était Jésus-Christ. Vrai? Mais nous lisons dans Philippiens 2 qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa beauté. Il est venu ici, pris la forme d'un serviteur. Il s'est enlaidi pour que nous soyons beaux aux yeux de Dieu. C'est incroyable, hein? Parce que n'oublions pas, dans Adam et Ève, jardin d'Éden, là, tout était beau. C'était beau, là. Adam et Ève étaient beaux, c'était parfait, tout était beau. Mais lorsque la chute est arrivée, tout a commencé à s'enlaidir. Et Jésus-Christ a quitté sa beauté pour devenir laid, pour que nous puissions devenir beaux aux yeux de Dieu. Réalises-tu qu'au ciel, Dieu te regarde et à cause du sacrifice de Jésus-Christ qui a pris sur lui tes péchés, tu es complètement pardonné, effacé, puis maintenant, aux yeux du ciel, aux yeux de Dieu, tu es beau. Quand Dieu te regarde, par Jésus-Christ, là, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, quand Dieu te regarde beau, il te voit beau. C'est une chose. Un jour, on va rentrer au ciel. Et Jésus, nous disons dans Éphésiens 5 que Jésus est en train de nous changer, nous embellir, nous transformer, nous sanctifier, et nous rendre de plus en plus saints, nous prépare pour ce grand jour lorsqu'il va revenir et on va rentrer au ciel. Et réalise une chose, à ce moment-là, quand on va rentrer au ciel, nous recevrons un corps glorifié, changé, et bon sang que tu vas être beau. Nous allons tous, même aux yeux de tous, nous serons tous des mannequins au ciel. Amen? Hey, on va tous être beaux au ciel. Et c'est ça la beauté de Dieu. Quand tu commences à contempler, à voir ce que Jésus a fait sur la croix, comment il a pardonné les péchés, comment il s'est enlaidi pour que tu deviennes beau. Bon sang, là, tu regardes Dieu, qu'il est beau. Hein? Bon sang qu'il est beau. Et ça va t'aider dans le jour du malheur. C'est ça qui va nous aider. Ça serait difficile de se rappeler cet amour sacrificiel de Dieu, comment il a tout abandonné pour venir nous chercher, nous sauver, nous emmener dans sa famille. Maintenant, comment avoir de voir de plus en plus cette beauté de Dieu? Bien, David le dit deux façons, et on va terminer là-dessus. Deux façons, par la prière et par la Bible. C'est là qu'on apprécie, qu'on découvre de plus en plus, de façon très pratique, c'est là qu'on va découvrir la beauté. Et David l'a dit, premièrement, le mot qu'il faut employer, c'est le mot contempler. Le mot voir, contempler, ça prend du temps à contempler. Ça prend, et c'est par la prière, c'est d'avoir un temps avec Dieu, et c'est là que tu le découvres, par la prière, tu passes du temps avec lui, en communion avec lui, tu le loues, tu le glorifies, tu confesses tes péchés, et tu entretiens cette relation avec lui. Tu lui parles face à face, hein. Voir, c'est face, t'es en face, tu lui parles. Quand tu parles à quelqu'un, quand t'es devant la face de quelqu'un, tu lui parles, c'est pour lui parler. Et c'est la même chose, c'est premièrement, c'est par la prière. Deuxièmement, c'est par la lecture, la découverte dans les Écritures saintes. Maintenant, David le dit, dans notre français, ça dépend de la traduction. Certaines traductions le rendent pas très, très, très bien. Mais voici comment Darby va le rendre, qui est un peu plus proche, malgré que c'est correct aussi, la traduction qu'on a avec Genève, ça dit « admirer ». Mais le mot « admirer », quand tu admires quelque chose, c'est que tu l'examines. Mais c'est encore plus précis avec la version Darby, ça reflète pas mal l'original, ça dit ceci. « Je demande une chose à l'Éternel, je la rechercherai, voici ce que je vais chercher, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Ah, j'ai une acétate pour ça, moi. C'est ça? J'ai demandé une chose. Oui. Alors, regardez bien. J'ai demandé une chose à l'Éternel. Et je la rechercherai. C'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour voir la beauté de Dieu. Alors, regardez bien ensuite. Pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Et c'est exactement le terme. C'est un terme technique qu'on se servait au temple. C'était le terme qu'on servait pour aller, quand tu allais au temple, tu allais voir le prêtre pour lui poser des questions, connaître la volonté de Dieu pour ta vie, avant de prendre une décision. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, qui vivons dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Ère, nous avons la parole de Dieu avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est que tu peux aller à la parole de Dieu, consulter Dieu, et ce que ça veut dire, c'est que tu mets en pratique ces choses-là. Donc, c'est la prière, comment tu découvres de plus en plus la beauté de Dieu, comment tu contemples la beauté de Dieu, c'est par la prière, c'est en étudiant les Écritures saintes pour la comprendre, connaître la volonté de Dieu pour ta vie, puis ensuite, c'est la mettre en pratique. C'est l'obéissance, c'est la mettre en pratique. Et dans la mesure que tu es en train de faire ça, Dieu se révèle à toi, il révèle sa beauté à ton cœur. Et ça te prépare quand tu fais face au jour du malheur. Voyez-vous, c'est en voyant la beauté de Dieu que l'on garde la tête haute dans les jours difficiles. Comment se fait-il que le missionnaire Alan Gardner, qui mourait sur cette île, dans la souffrance, pouvait se réjouir et dire, bon sang, je suis émerveillé par la bonté de Dieu. Parce que, pensez-y, parce qu'il avait sur cette île ce qui comptait le plus pour lui. Oui, il a perdu bien des choses. Mais ce qui comptait le plus pour lui, c'était Dieu. Allen est mort la tête haute, environné d'ennemis. Pour lui, l'ennemi, c'était la faim et la soif. Ça l'a tué. Mais il est mort la tête haute. Parce qu'il avait vu, il a fait l'expérience, la présence et la beauté, l'excellence, la satisfaction d'être en Dieu. Dieu est l'ultime bien, il a ce qu'il y a de meilleur. Il est la beauté extrême. Il est l'excellence de l'excellence. L'ultime beauté, l'ultime magnificence. Prions Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir et te louer parce que tu es beau. Tu es beau. Et c'est vraiment à la croix, Seigneur, qu'on se rappelle à quel point tu es beau. Lorsque Jésus a abandonné sa gloire et tous les droits auxquels cette nature, sa nature divine lui donnait, il a tout mis ça de côté. Pour prendre la forme d'un serviteur, c'est offert en sacrifice, librement, par amour pour nous, les pécheurs. C'est là qu'on voit la beauté, Seigneur, ta beauté à son maximum. Nous voulons te remercier, Seigneur. Remercions, Seigneur, ta beauté et que tu t'es fait connaître à lui. Au nom de Jésus. Amen.